Radio Kapi. Oh, Kapi. La désinformation de la population sur la mission et le mandat proprement dit de la MONUSCO et le mauvais état des routes rendent parfois difficile l'efficacité des forces de la MONUSCO dans les zones déployées. Mais elle s'emploie à contourner cette situation pour bien remplir sa mission. Activisme pour la supervision des élections en Afrique, c'est une nouvelle ASBL qui vient de voir le jour à Bukavu, au sud Kivu. Pour cette structure, améliorer la qualité de l'observation des élections doit avoir lieu avant, pendant et après les élections. Enfin, notre invité dans cette édition, c'est le chef de bureau intérimaire de la MONUSCO à Goma. Julius Fondong nous fait le compte-rendu de la mission qu'il a conduit à Gigoro en territoire de Rutshuru et à Miriki en territoire de Lubero dans le Nord Kivu. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, les forces de la MONUSCO, spécialement les casquets bleus, restent confrontées à des défis qui rendent parfois difficile leur efficacité dans les zones où ils sont temporairement déployés pour protéger des civils. Il s'agit notamment des mauvais états des routes, mais aussi la désinformation de la population sur la mission et le mandat proprement dit de la MONUSCO. Ce constat a été présenté jeudi dernier au chef de bureau de la MONUSCO ainsi qu'au commandant secteur des casquets bleus à Goma par les commandants des deux bases temporaires des casquets bleus déployés à Gigoro en territoire de Rutshuru et à Miriki en territoire de Lubero. Mais comment la MONUSCO envisage-t-elle contourner ces grands défis et remplir pleinement son mandat visant la protection des civils dans les zones affectées par les conflits armés? Le chef de bureau de la MONUSCO en charge à Goma, Julien Fondong, rassure et apporte ici quelques précisions au micro de Gabriel Wamenya.
Le général et moi-même, on va explorer les voies et moyens de déployer nos troupes par voie aérienne pour contrecarrer le défi des mauvais états des routes. Et je pense qu'on a déjà commencé à faire la reconnaissance de certaines de plusieurs sites d'atterrissage là où on peut facilement déployer nos troupes par voie aérienne, par voie d'hélico. Nous allons continuer à sensibiliser la population sur le mandat et la mission de la MONUSCO pour gagner leur confiance et pour les faire comprendre que la MONUSCO est de leur côté et pas du côté de ceux-là qui leur font du mal. Nous sommes là pour la population et nous ne sommes pas là pour leurs ennemis. Et en troisième lieu, dans les jours à venir, on va aussi déployer des missions conjointes, ce que j'appelle les missions de proximité, dans les zones dites chaudes pour renforcer notre présence auprès de la population.
On reste dans la région. À Beni, la coordination de la protection civile appelle la population à la discipline et au respect des mesures sécuritaires prises par les autorités dans le cadre du rétablissement de la paix et de la sécurité, notamment le respect des heures de couvre-feu, la vigilance par rapport aux objets non identifiés trouvés dans la ville. Son coordonnateur, Jean-Paul Kapitula, appelle aussi les forces de l'ordre à ne pas profiter de cette situation pour tracasser les populations. Il est dit au micro de Marc Marofimbo.
On ne peut tout finir pour la journée. Même si on nous laissait travailler jusqu'à 22 heures. Mais nous n'avons jamais fini tout ce que nous faisons. Là, c'est clair. Nous-mêmes, nous pouvons d'abord rentrer derrière, réfléchir sur pourquoi ceci est arrivé, comment cela est arrivé, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça n'arrive plus. Et là, je vous dis, du coup, nous allons adopter les seules mesures qu'on nous a données. Et une fois que la situation est rétablie, toutes les choses vont rentrer à la normale. Ce n'est pas la fin du monde parce qu'on dit qu'on doit rentrer à la maison avant 19h. Mais nous allons demander que les éléments de l'ordre veillent à ce que quand c'est 19h, ce n'est pas le moment de la tracasserie. C'est le moment de poser la question, tu viens d'où? Et même s'il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut pas demander l'argent. Donc nous devons être disciplinés, nous population, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et pour ne pas aussi décourager ceux qui sont là pour vouloir nous ramener la sécurité. Ça veut dire les agents de l'ordre. Ils doivent nous amener des mesures. Si nous nous adaptons directement à ces mesures, on va leur permettre de faire leur travail.
Pendant ce temps, 8 aires de santé sur les 17 que compte la zone de santé de Komanda dans la province de l'Ituri ne sont plus supervisées par les autorités sanitaires. C'est à cause de l'insécurité qui prévaut dans les territoires du Rumu où les groupes armés, dont les ADF, commettent des exactions contre les civils. Le responsable de cette zone de santé affirme que, parmi les conséquences de cette situation, de nombreux enfants ne reçoivent plus leur vaccin de routine. Il parle également des difficultés à obtenir des informations fiables sur les données épidémiologiques ou les décès communautaires, ce qui risque de rendre difficile le programme de riposte en cas d'urgence sanitaire dans la zone. Reportage Jean-Claude Lokidile.
Il s'agit des aires de santé de Fahi, Idou, Bonassoura, Kasoko, Luna, Ndalia, Samboko et Katabei, où les équipes de la zone de santé n'y accèdent plus depuis plusieurs mois. Les aires de santé d'Idou et Bonassoura, par exemple, ne sont plus opérationnelles à cause des attaques à répétition des rebelles des ADF. La population a quitté la zone pour se réfugier dans des entités voisines. Certains enfants, par exemple, n'arrivaient plus à se faire vacciner. Le docteur Faustin Singo, responsable de cette zone de santé, s'en inquiète.
Il peut y avoir une épidémie qui peut débuter qui a commencé quelque part, l'information pourra peut-être revenir plus tard car l'épidémie a déjà pris de l'ampleur. Mais aussi pour les enfants qui sont insuffisamment vaccinés, on peut toujours aussi craindre une émergence d'une quelconque épidémie, comme même celle de rougeole, qui peut se déclencher quelque part et ravager les enfants. Même les enfants malnutris peuvent se retrouver dans ces régions que nous ne contrôlons pas. Ces enfants peuvent mourir alors qu'on pouvait bien leur apporter des assistances nécessaires pour qu'ils soient sauvés.
Parmi les autres défis, on note aussi la difficulté de ravitailler en médicaments les quelques formations médicales qui fonctionnent encore sur place au niveau de l'hôpital général de Komanda. On signale une baisse de fréquentation des patients à cause des rumeurs sur d'éventuelles attaques de cette structure médicale par des miliciens. Ici, tout le monde ne jure que par un mot, la paix. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Et puis cette bonne nouvelle, dans la province du Maniema, la fondation Antonia Kindanda Kishabongo, qui s'occupe de l'encadrement et la formation des jeunes gens, ainsi que les mères célibataires, a reçu un appui en matériel. Il s'agit d'un lot important de tissus imperméables et consommables pour la fabrication des serviettes hygiéniques lavables, des couches pour bébés lavables et des coussinets d'allaitement. La fondatrice de cette structure a eu deux mots justes pour dire merci à son bienfaiteur. Madame Antonia Kindanda Kishabongo s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
La Fondation Antonia Kindanda Kishabongo remercie profondément Enabel pour ce subside, pour cet appui qui, je pense, ne peut faire qu'avancer le travail de la Fondation ici dans la province. Je pense que c'est déjà un pas, mais nous avons toujours besoin de plus parce que cela nous a appuyé d'une certaine façon, mais puisque nous faisons un travail, comme vous le savez, dans la formation socio-professionnelle des jeunes filles, jeunes garçons, des mères célibataires et tout cela, nous avons besoin davantage de matériel et d'appui. Concrètement, la Fondation a reçu de Enabel des tissus qui vont nous permettre de confectionner des serviettes hygiéniques lavables, des couches pour bébés lavables et aussi des coussinets d'allaitement. Alors nous avons reçu du tissu absorbant, du PUL, ce qui n'existe pas sur le marché congolais, donc c'est un tissu imperméable mais respirant en même temps. Donc c'est vraiment une grande innovation. Et nous avons reçu aussi des boutons à pression en plastique, qui est difficile aussi à trouver sur le marché local, et des pinces pour travailler tout ça.
Nous l'avons dit au sommaire. Au Sud Kivu, sortie officielle de l'ASBEL International ACA, activisme pour la supervision des élections en Afrique, ce samedi 22 janvier à Bukavu. Une organisation contenant en son sein près de 1400 membres formés sur la supervision des élections. Le but visé de cette organisation, ce sont les préparatifs pour l'effectivité des prochaines élections en RDC. Pour ACA, l'amélioration de la qualité de l'observation des élections doit avoir lieu avant, pendant et après les élections. C'est l'objectif que cette structure se fixe. Fuliro Muganda Barnabé de l'ACA est au micro de Rachel Kesembango.
La province du Sud Kivu peut attendre une bonne observation des élections dans notre pays. Dans notre objectif, nous visons l'amélioration de la qualité des observations dans notre pays. Non seulement dans notre pays, mais dans tous les pays africains qui acceptent de faire les élections. Après la concrétisation de notre sortie, nous décidons une suite de projets à réaliser entre autres la formation de la population, parce que d'une manière générale, les gens pensent que les observations c'est une activité qui a lieu le jour des élections, alors que avant les élections, pendant les élections et après les élections, il y a des activités qu'il faut absolument réaliser pour améliorer la qualité des élections. C'est pourquoi nous, sachant que 2023 est une année électorale dans notre pays, nous disons, avant l'arrivée de cette année, il faut commencer par sensibiliser la population. Il faut former les compatriotes qui ont la capacité d'observer les élections avant que les élections n'arrivent.
Les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans les secteurs du tourisme et de l'industrie, des batteries et des véhicules électriques avec l'installation d'une usine pilote des batteries électriques à Lubumbashi dans le Haut-Katanga ont été présentées à Madrid au directeur général de l'Organisation mondiale du tourisme. Le ministre du tourisme Moderon Timba et celui de l'industrie Julien Paluku Kaungia ont éclairé le patron de l'OMT sur les indicateurs qui démontrent que la RDC est désormais la meilleure destination au monde. Plus de détails avec vous, Richard Junior Kamunga.
En effet, les ministres congolais Moderon Timba et Julien Paluku ont expliqué au patron de l'Organisation mondiale du tourisme que la RDC occupe cette position stratégique grâce à ses réserves importantes de minerais stratégiques dont le cobalt et le thium qui interviennent dans la fabrication des batteries des véhicules électriques, tel que démontré par l'étude de Bloomberg rendue publique au cours du RDC Africa Business Forum tenu dernièrement à Kinshasa. Le directeur général de l'Organisation mondial du tourisme qui s'est dit édifié a promis de mobiliser les investisseurs pour matérialiser ce grand projet qui va créer plus d'emplois et des richesses. Juste après, ces deux membres du gouvernement Samalokonde, cette fois-ci accompagnés de quelques députés nationaux élus de Kinshasa, ont visité l'ambassade de la RDC à Madrid. L'objectif étant, selon un membre de la délégation, d'encourager l'ambassadeur et son personnel. Palper du doigt les difficultés auxquelles ils se heurtent pour faire rapport au gouvernement et mettre sur pied des stratégies pour promouvoir une diplomatie économique.
Autre nouvelle, au Kasaï Oriental, l'ouverture officielle de l'année académique à l'université officielle de Mbujimayi, UOM. Le gouverneur de province intérimaire ainsi que plusieurs personnalités ont été invités pour participer à cette cérémonie. Dans son discours intitulé « Faire de l'université officielle de Mbujimayi une véritable université », à l'occasion, son recteur, le professeur Abbé Apollinaire Tshibaka Tshikongo, a annoncé quelques innovations pour améliorer les enseignements. Quelques prix ont été décernés à certains nouveaux et anciens étudiants pour la toute première fois depuis l'existence de cette institution. Esther Ndalafina, reportage.
Cette cérémonie a connu trois moments forts. Dans son discours, le recteur a indiqué que les cours seront désormais dispensés par les professeurs et non plus par les assistants comme cela se faisait par le passé. Le souhait du recteur est de voir cette institution se conformer autant que les autres au nouveau système d'enseignement LMD, licence, master, doctorat, Abbé Apollinaire Tshibaka Tshikongo.
Nous n'avons pas besoin d'enseignants qui courent. Nous avons besoin d'enseignants qui enseignent. Il est donc nécessaire que les doyens et leurs collaborateurs veillent au respect du temps propre de chaque groupe. Et dans le système LMD, ils auront une attention particulière pour le temps des pratiques professionnelles.
Quatre meilleurs étudiants ont reçu des prix. Deux nouveaux étudiants ont reçu le prix professeur Wembonyama pour avoir réalisé le meilleur pourcentage au concours d'admission. Trois meilleurs étudiants ayant obtenu le pourcentage élevé ont reçu respectivement le prix professeur Astrid Nseya, Jonas Munkamba et professeur Placide Mwamba. Yvette Mbouyi est la seule étudiante qui a obtenu 72% à la première session. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis décédé le 27 décembre 2021 au Cameroun, à l'âge de 62 ans, le chanteur congolais François Lulendo Matumona, mieux connu sous le surnom de Général Defao, a été inhumé hier samedi, ici à Kinshasa, au cimetière Nécropole entre terre et ciel. Exposé au Musée national de Kinshasa, la dépouille mortelle du célèbre chanteur et danseur a eu droit à des témoignages poignants et des hommages différents des officiels, entrecoupés de quelques prestations scéniques, de quelques artistes et groupes qui ont tenue à honorer la mémoire de ce célèbre chanteur et danseur hors pair qui a fait la pluie et le beau temps vers les années 80 avec l'orchestre Shockstar avant de créer son propre groupe Big Star en 1991. Selon la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Catherine Katungu-Fura, Defao a beaucoup contribué à la promotion de la musique congolaise au pays comme en Afrique et a joué un rôle important dans la détection des talents. On l'écoute au micro de Jean-Marc Matwaki.
L'artiste Defao a laissé plus de 50 musiciens et artistes aux autres orchestres. Et le groupe de Defao, il est connu, c'est Big Star, a vécu pratiquement, donc a été très très actif pendant 9 ans. C'était depuis 1991 que ce groupe a vu le jour. Et c'est de 1991 jusqu'à 2000 qu'on a vu vraiment Defao très très actif. Et dans 9 ans, il a produit des talents. Si dans 9 ans d'activité, vous produisez plus de 50 musiciens que vous donnez aux autres orchestres, c'est quand même du travail des titans. Et c'est un travail qui doit être reconnu. Et donc, il a vraiment travaillé, il a préparé, il a promu, il a essayé un peu de relever le niveau des artistes et il a détecté des talents et qu'il a donné aux autres orchestres. Nous devons aussi reconnaître que Defao avait beaucoup de chanteurs. Il a formé beaucoup de chanteurs. Dans les répertoires, on essaie un peu de voir 15 chanteurs qu'il a formés. Il a formé 11 guitaristes qui travaillent, qui ont accompagné beaucoup d'autres orchestres et des batteurs.
Actualité internationale.
Des tirs à l'arme automatique et l'arme lourde au camp du général Babassi et au camp Sangoulé, la Misana de Ouagadougou, nous sommes au Burkina Faso, ont été entendus ce dimanche matin et des incidents signalés à Kaya et à Ouaigouya dans le nord du pays. À Ouagadougou, au fil de la matinée, les incidents semblent avoir baissé d'intensité. Dans un communiqué, le gouvernement confirme ces tirs dans des casernes à Ouagadougou, mais dément les rumeurs d'un coup d'État. Des informations véhiculées dans des réseaux sociaux tendent à faire croire à une prise de pouvoir par l'armée en ces jours. Le gouvernement, tout en reconnaissant l'effectivité des tirs dans certaines casernes, dément ces informations et appelle les populations à rester sereines, a indiqué à la Kassoum Maïga, porte-parole du gouvernement. De son côté, le ministre de la Défense, le général Barthélémy Simpori, a affirmé que, pour le moment, aucune institution de la République n'a été inquiétée.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le chef de bureau intérimaire de la MONUSCO à Goma, Julius Fondong, qui nous fait le compte-rendu de la mission qu'il a conduit à Gigoro en territoire de Rutshuru et à Miriki en territoire de Lubero dans le Nord Kivu. Il s'entretient ici avec Gabriel Wamenya. Suivez.
Monsieur Julius Fondong, bonjour.
Bonjour.
Vous avez conduit jeudi une mission héliportée à Gigoro, un groupement de Djomba en territoire de Rutshuru ainsi qu'à Miriki dans le sud du territoire des Lubero. Comment se présente exactement la situation sécuritaire dans ces entités que vous avez visitées?
L'objectif était d'abord de rendre visite à nos troupes qui sont déployées dans ces zones dites des zones chaudes. On a voulu aussi s'imprégner des défis auxquels ils sont confrontés au quotidien et aussi de les transmettre le message d'encouragement de Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Bintou Keïta, ainsi que ceux du général commandant les forces de la MONUSCO.
Vous parlez exactement des défis auxquels font face le casque bleu de la MONUSCO dans les secteurs où ils sont déployés temporairement. Lesquels défis s'agit-il, Monsieur Fondong?
On a profité de l'occasion pour évaluer la situation sécuritaire ainsi que l'efficacité de nos opérations en matière de la protection des civils sur le terrain. À Gigoro, à Mweso, à Ruindi, comme à Miriki, les troupes ont soulevé deux problèmes majeurs. Le premier, c'est le mauvais état des routes qui freinent leur mouvement et retardent leur intervention. Par exemple, pour quitter Miriki, pour aller intervenir à Mouluyasa, ils ont pu marcher 8 heures, aller vite. Et vous savez qu'avec ces conditions-là, ça peut freiner aussi le temps d'intervenir et les opérations de protection des civils. En deuxième lieu, ils ont soulevé le défi d'une certaine réticence de la population de partager les informations avec nos troupes. Mm-hmm. Donc voilà les deux grands défis auxquels ils ont confronté et qu'ils ont apporté à ma connaissance.
Qu'à cela ne tienne, comment alors la MONUSCO pense contourner les dix défis et remplir pleinement son mandat?
mandat de la protection des civils
dans les zones affectées par les conflits armés, mais d'accès difficile.
Le général et moi-même, on va explorer les voies et moyens de déployer nos troupes par voie aérienne pour contrecarrer le défi des mauvais états des routes. Et je pense qu'on a déjà commencé à faire la reconnaissance de certaines de plusieurs sites d'atterrissage là où on peut facilement déployer nos troupes par voie aérienne, par voie d'hélico. Aussi, nous allons continuer à sensibiliser la population sur le mandat et la mission de la MONUSCO pour gagner leur confiance et pour les faire comprendre que la MONUSCO est de leur côté et pas du côté de ceux-là qui leur font du mal. Et en troisième lieu, dans les jours à venir, on va aussi déployer des missions conjointes, ce que j'appelle les missions de proximité dans les zones dites chaudes pour renforcer notre présence auprès de la population.
Ok, vous parlez de la réticence de la population à collaborer, à transmettre les informations à temps utile au casque bleu. Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour renouer cette confiance entre le casque bleu et la population?
Oui, j'ai aussi constaté que la plupart de nos collègues sur le terrain qui sont chargés de la les alertes par téléphone sont agréées sur le réseau Vodacom, alors que dans la zone, c'est beaucoup plus l'orange qui est au service. Donc, on va essayer de changer tout ça. Et comme j'ai dit tantôt, on va multiplier les missions de sensibilisation sur le terrain afin d'être beaucoup plus un peu près de la population civile, de les écouter de plus en plus et ensemble essayer de voir comment on peut venir à bout de leurs défis, de leurs problèmes, surtout les problèmes d'ordre sécuritaire.
Alors revenons brièvement sur la situation sécuritaire. Comment vous l'avez analysée?
Je pense que après les premiers accrochages entre les NDCR et le FPP, les choses sont revenues au calme. Les commandants m'ont dit que la population qui se sont déplacées ont commencé à regagner leur village et on a aussi essayé de renforcer la présence de nos troupes. Et les FADC ont fait la même chose. Je peux dire avec une mesure de confiance que progressivement la situation revient à la normale.
Julius Fondong, je vous remercie.
C'est à moi à vous remercier.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.